On va démarrer notre sujet principal qui va porter sur les modèles d'organisation ouverts dans les entreprises du logiciel libre. Alors mardi dernier, nous avions diffusé la première partie de ce sujet, qui était une rediffusion de l'émission numéro 178 du 13 janvier 2023. Donc si vous n'avez pas écouté cette première émission, vous pouvez la réécouter sur le site libreavoue.org/178. Alors nos invités Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauva, qui vont se présenter dans quelques instants, donc n'hésitez pas à participer à notre conversation, soit sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou sur le site de l'émission libreavoue.org, ou encore par téléphone au 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Alors on va commencer par une petite présentation. Valentine Augier-Galland.
Bonjour, je suis à mon compte depuis une bonne douzaine d'années. Aujourd'hui, j'aide les organisations à s'aligner avec leurs valeurs. Et je fais ça à l'intérieur d'une coopérative qui s'appelle Créalide, dans lequel je collabore avec deux personnes qui s'appellent A3, on est le studio Agile. Voilà.
Ok, ben, merci Valentine. Nicolas Chauva.
Eh bien, moi j'ai fait des études d'ingénieur il y a un certain temps, au cours desquelles j'ai pu découvrir le logiciel libre et Internet. Et après avoir fait un peu d'intelligence artificielle, j'ai fait la société Logilab, qui a toujours fait du logiciel libre, qui se spécialise dans les encyclopédies de données, on va dire, où on rassemble toutes les données au même endroit et ensuite on fait des références croisées. Et depuis plus de 20 ans, on essaie d'organiser cette entreprise de la manière la plus horizontale possible. Et donc c'est pour ça que, avec Valentine, on s'est intéressé à comment avaient fait les autres.
Exactement. Donc je vais rappeler simplement le contexte déjà de votre enquête et je vous laisserai éventuellement préciser avant qu'on rentre dans le sujet de la discussion. Donc sur la page d'introduction à votre projet, je lis tout simplement hein. Le modèle d'entreprise le plus visible aujourd'hui est très hiérarchisé, généralement avec une concentration des pouvoirs et des informations et des dérives autoritaires fréquentes. Et pourtant de nombreuses entreprises ont adopté et explorent encore des modèles alternatifs. Dans le milieu du logiciel libre, se sont multipliées les initiatives à base de transparence, partage des responsabilités, gouvernance participative et autres approches horizontales. Ainsi est née l'élan de vie d'une enquête sur ces modèles différents, donc modèles d'organisation ouverts, pour y trouver de nouveaux outils, partager des expériences, les résultats, en espérant que d'autres puissent s'en inspirer. Alors votre enquête n'est pas finie, mais aujourd'hui on souhaitait faire parler d'un point central, tu l'as prononcé tout à l'heure le mot horizontalité, et donc de parler des entreprises, organisation horizontale versus verticale. Donc ça c'est l'intro de votre enquête. Vous reviendrez sans doute une troisième fois, une fois que vous aurez terminé votre enquête, parce que c'est la base d'interview, donc vous n'avez pas encore fini. Hein. Est-ce que, avant qu'on parle vraiment de la partie vraiment centrale de l'échange d'aujourd'hui, qui est l'horizontalité, est-ce que vous voulez compléter cette introduction sur votre enquête, les objectifs, le mode de travail ? Valentine ?
Alors, je dirais, effectivement, c'est un point d'étape. Nous avons interviewé une douzaine d'entreprises, une dizaine. Certaines entreprises plusieurs fois, ou certaines organisations plusieurs fois. Ça a fait une grosse masse de données, et la synthèse est commencée. On sait par avance qu'on va avoir d'autres interviews qui vont venir, et d'autres étapes. Ce point, c'est un peu pour faire une première synthèse.
Tu citais la page de l'émission du projet, Fred. Sur cette page du projet, on affiche qu'on a parlé de ce projet à l'April et à Framasoft qui nous ont dit « ça nous intéresse, allez-y, si vous produisez des résultats, on vous aidera à les diffuser ». Donc c'est aussi un peu dans ce cadre-là que tu nous as invité à l'émission Libre. Oui. Je ne sais pas si on aura fini dans un an, parce que on n'avance pas extrêmement rapidement non plus, parce que on a une activité professionnelle qui est assez prenante déjà et on rajoute ces heures-là un peu en plus du reste. Et je pense qu'on est venu la première fois il y a un an.
C'était tout à fait, parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est je me suis trompé d'ailleurs, j'ai marqué janvier 2023, mais pas du tout, c'était en juin 2023.
Voilà, donc moi je le vois comme une sorte de point d'étape où il y a un an on a expliqué ce qu'on avait commencé à faire. Un an après, je pense qu'on a changer de position sur certaines choses, etc. Donc on peut raconter ça. Et puis si on est toujours là pour en parler dans un an, peut-être tu pourras nous réinviter. Puis on verra si c'est la dernière fois ou pas.
Bah c'est en tout cas c'est prévu. S'il faut une troisième, quatrième émission, on verra bien. Donc effectivement là, quand on a préparé l'émission, bah il y avait le mot clé qui est revenu principalement, c'est l'horizontalité, parce qu'en fait c'est un peu l'un des cœurs du sujet. Mais en fait, l'horizontalité, c'est pas un terme binaire, c'est pas, on n'est pas horizontal, on est horizontal ou on n'est pas horizontal, c'est pas ça, c'est pas aussi fixe que ça. Il y a différents niveaux d'horizontalité. Alors peut-être que justement, on pourrait essayer de commencer par les différents niveaux d'horizontalité que vous voyez à partir de vos enquêtes. Qui veut commencer? Nicolas.
Moi, je veux bien commencer avec une courte définition. Ce qu'on appelle horizontal et vertical, là, avec Valentine, c'est, pour nous, vertical, c'est, horizontal, pardon, c'est les organisations qui favorisent la responsabilisation des gens et leur autonomie, c'est-à-dire que les gens qui font des choses aient la possibilité de prendre des décisions qui correspondent à ce qu'ils sont en train de faire, qui soient pas systématiquement obligés d'en référer à quelqu'un d'autre qui va intégrer des informations qui viennent d'ailleurs auxquelles eux n'auraient pas accès et prendre une décision qui leur redescendrait sans forcément qu'il y ait d'explication en disant tu m'as dit que t'étais dans telle situation, je te dis de faire ça. Tu m'as dit que t'étais dans telle situation, je te dis de faire ça. Ça pour nous c'est vertical. Je suis dans cette situation là, je sais ce qui se passe autour de moi. Et je sais que dans ce cas particulier, je vais décider ça et je vais continuer. Ou dans ce cas-là, je vais en parler aux autres pour voir ce qu'on fait. Ça, à l'inverse, c'est horizontal.
D'accord. Valentine, sur cette définition de l'horizontalité,
on a la même. Moi, je le formulerais en disant la responsabilité est répartie sur les différents membres de l'organisation ou la responsabilité est concentrée sur un petit nombre de membres de l'organisation. J'irais même jusqu'à dire que cette horizontalité, elle se manifeste sur la durée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des entreprises qui sont horizontales parce que la responsabilité change au fil du temps. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne qui décide, mais si cette personne change régulièrement pour un type de décision, eh bien on se retrouve quand même avec un motif d'horizontalité. Et ça, c'est peut-être le plus important de nos définitions, c'est que tu disais l'horizontalité et la verticalité, c'est pas deux choses binaires. D'un côté, on a la verticalité, c'est mal, et de l'autre côté, on a l'horizontalité et c'est bien. On a plein de motifs qui vont vers l'horizontalité, et on a plein de choses qui sont qui vont nous limiter pour être horizontal. Donc, si on a un objectif d'horizontalité, on peut y être plus ou moins proche.
Attends, juste avant de te laisser réagir, Nicolas, sur le terme motif, est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par motif? Et avant qu'on les liste, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu entends par le terme motif, en fait?
C'est des
fonctionnements qui se répètent.
En fait, pendant nos entretiens, on a identifié un certain nombre de choses que l'on voyait d'organisation en organisation.
D'accord. Ok.
Donc un schéma de fonctionnement.
Un schéma de fonctionnement qui se répète.
Un petit schéma de fonctionnement qui se répète ou qui est identifiable comme appartenant à cet objectif d'horizontalité.
Et à l'inverse, les anti-motifs qui n'appartiennent pas à cette mise en œuvre de l'horizontalité, c'est ça?
Ou en tout cas qui vont la freiner.
Qui vont la freiner, d'accord. Donc on va y revenir juste après, mais tu voulais réagir, Nicolas?
Oui, je voulais juste rajouter. Donc Valentine et moi, on a des formations d'ingénieurs. Notre spécialité à la base, c'est plus d'écrire du code. Donc on prétend pas faire des sciences sociales comme les gens dont c'est le métier, même si là c'est un peu le sujet. Et comme on travaille nous-mêmes dans des organisations qui essayent d'être horizontales, enfin faut prendre tout ce qu'on dit avec un grain de sel et le fait que on est complètement subjectif dans cette affaire.
Ah mais tout à fait, ça c'est tout à fait clair. Hein. Et vous basez en plus sur les entretiens d'entreprises qui mettent en œuvre
qu'on a choisi avec un petit ensemble statistique, donc voilà. On va pas pouvoir.
Mais peu importe, on n'est pas là pour faire des sciences sociales.
J'ajouterais même que la subjectivité, elle est. On a rencontré très peu de gens qui avaient pas d'avis et C'est un sujet, l'organisation d'une entreprise ou l'organisation de là où on vit, là où on travaille, c'est un sujet qui est engageant. C'est un sujet qui,
Oui.
Qui est impactant. Donc, de toute façon, que ce soit nous ou que ce soit les autres, il y a de la subjectivité. Et il y a des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, des choses sur lesquelles on réagit fortement.
Ok, tout à fait, oui. Alors, tout à l'heure, t'as introduit un terme, enfin, deux termes intéressants qui sont les motifs qui favorisent l'interopérabilité, les anti-motifs qui pourraient la freiner. Est-ce qu'on pourrait commencer justement par ça? Quels sont ces, bah, déjà, le côté positif, quels sont les motifs qui favorisent l'horizontalité? Valentine?
Alors, j'ai parlé d'un, c'est ce que moi j'appelle la fluidité des mandats. Il y a peut-être un meilleur terme qui va apparaître plus tard, mais en gros, un mandat, c'est explicitement le fait d'avoir une sphère de décision ou de responsabilité. Donc, j'emploie le terme mandat parce que le côté explicite est important. Et la fluidité, c'est les mandats peuvent changer de personne. C'est-à-dire, soit les mandats sont répartis, c'est pas une personne qui fait toujours tout, soit les mandats changent régulièrement, soit les mandats sont partagés par un groupe, un cercle, un comité, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Si le mandat est fluide et dilué, on a un bon motif, on va vers l'horizontalité.
Plutôt que motif et anti-motif, ça donne une direction du genre horizontal c'est bien et vertical c'est mal. Alors je suis plutôt parti avec cette idée-là, moi, il y a un an et demi. Aujourd'hui, je pense que j'ai un peu changé de point de vue là-dessus.
Pour préciser, le point de départ quelque part, enfin, venant du livre, c'est, on se dit, l'horizontalité c'est bien, quoi qu'il arrive, la verticalité c'est mal, parce qu'on n'a pas été, on n'a pas baigné dans la verticalité, dans le monde du libre, il y a beaucoup de verticalité, excuse-moi, effectivement.
Souvent dans des contextes toxiques. C'est-à-dire, on a beaucoup de verticalité toxique.
Oui.
On en a plein d'exemples.
Voilà, c'est ça.
Et donc, on se dit, l'horizontalité, déjà, c'est une autre voie, c'est une alternative, et ça va forcément être mieux.
Et pas toxique.
Oui. Et pas toxique.
On y reviendra tout à l'heure. Je te laisse, voilà. Mais justement, on va y revenir tout à l'heure parce que sur la partie toxicité. Mais je te laisse poursuivre.
Moi, plutôt que motif et anti-motif, je dirais, il y a certains motifs qui vont dans le sens de l'horizontalité et d'autres qui vont dans le sens de la verticalité. Valentine vient de parler des responsabilités. Typiquement, si tu concentres les responsabilités sur un très petit nombre de gens, si tu concentres les responsabilités, tu vas dans le sens de la verticalité. Si tu fais des responsabilités tournantes, tu les répartis, tu vas dans le sens de l'horizontalité. S'il y a des choses explicites, si c'est implicite, il y a plus de chances que ça devienne vertical que horizontal. C'est-à-dire, pour que les responsabilités soient réparties, que la prise de décision soit répartie, il faut explicitement dire que les gens peuvent prendre les décisions de là où ils sont. Sinon, il peut y avoir une tendance à dire « Ah, je sais pas si j'ai le droit, je vais pas le faire ».
Tu veux dire que ce qui est important, c'est rendre explicite l'implicite, et donc vraiment de rendre explicite quelles décisions peuvent être prises. Et par qui?
Exactement.
Quel processus?
On peut avoir une organisation verticale avec beaucoup d'implicites, avec des hiérarchies implicites. Si on veut être horizontal, il va falloir rendre ces hiérarchies visibles. Et si on supprime toutes les hiérarchies managériales habituelles et qu'on ne fait rien d'autre pour mitiger la tendance naturelle, eh bien, on va se retrouver avec des hiérarchies implicites, par exemple. Ce sont les membres de l'organisation les plus anciens qui décident, ou ce sont ceux qui ont le plus de diplômes, ou ce sont ceux qui parlent le plus fort.
Alors justement, ça me fait penser. Voilà. Alors je vois la question de Marie Odile, enfin la remarque sur Marie Odile. Je vais la relire juste après. Mais comme tu parles de ça, juste avant l'entrée en studio, je vous racontais une petite histoire. Et là, je vais juste citer entre guillemets un message que j'ai vu ce matin, mais sans citer du tout le contexte. Hein. En gros, la personne dit que le fonctionnement horizontal ne protège pas forcément les salariés. La démocratie d'entreprise, mis entre guillemets, n'a aucune valeur si on laisse les personnes les plus brillantes prendre le dessus. Et la personne précise, ce n'est pas parce que c'est une SCOB, donc une coopérative, que par magie tout irait bien. Donc c'est un peu ce que tu...
C'est un point sur... Il y a un an, c'est peut-être ce qu'on a dit dans l'émission d'il y a un an, d'ailleurs, j'ai pas réécouté ce qui a été rediffusé la semaine dernière. On était plutôt sur une position horizontale, c'est bien, et verticale, c'est mal. Aujourd'hui, on serait plutôt sur une position, être incohérent, c'est mal, être cohérent, c'est bien. C'est-à-dire, si tu affiches un désir, tu dis à tout le monde on est horizontal et que après tu te comportes autrement, l'incohérence va te causer des problèmes. Si tu dis à tout le monde chez nous c'est vertical, ça se passe comme ça et que tu te tiens à ce qui est dit, bon, après voilà, les règles sont connues, les gens peuvent choisir de travailler là ou de travailler ailleurs, mais au moins c'est clair.
Alors je vais relayer la remarque de Marie-Odile, je demandais de réagir dessus. Donc Marie-Odile nous dit, et on la salue parce que Marie-Odile fait la quasi-totalité de transcription des émissions Libre à vous, voilà, et d'autres pour l'April sur le site donc librealire.org. Elle nous dit la verticalité non toxique me conviendrait, et elle précise, je ne suis pas responsable, c'est reposant.
Absolument.
Et c'est vrai qu'en fait, ça fait partie des choses qui sont reposantes, de ne pas avoir à prendre de décision, de ne pas être donc responsable de quelque chose.
Tu nous avais prévenu qu'on était susceptible de commencer par la fin. Donc,
alors je vous ai prévenu que l'ordre qu'on avait prévu n'était pas susceptible d'être suivi parce que c'est une discussion. Voilà. Alors pour être en toute transparence sur la préparation de l'émission, ce qui est pas toujours le cas d'ailleurs, on fait pas ça, mais là on a fait une heure d'échange entre nous. Donc avec, on avait prévu un petit déroulé, mais j'avais prévenu que en fonction effectivement de notre démarrage d'émission et des questions sur le salon, on pourrait peut-être changer l'ordre. Donc c'est pas très grave. Donc je vous demande de réagir éventuellement sur cette partie. Je ne suis pas responsable, c'est reposant. Et donc je complète la question en disant finalement l'horizontalité, est-ce que ça convient à tout le monde en fait ou pas justement par rapport à ça quoi. Qui veut commencer? Valentine, vas-y.
À tout le monde, peut-être pas à tout le monde et peut-être pas avec tout le monde non plus. C'est-à-dire que pour avoir de l'horizontalité, il faut avoir une certaine communication entre les gens qui font de l'horizontalité, pour qu'il y ait des prises de décision collectives ou réparties, il va falloir beaucoup de communication. Il va falloir beaucoup d'efforts en amont pour aligner les gens vers que les gens se choisissent un objectif commun, etc. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire cet effort pour leur travail. Peut-être qu'ils veulent juste un travail alimentaire et mettre toute leur énergie dans leur implication bénévole à côté et d'autres choses. Et c'est OK. De la même façon que c'est OK de pas arriver de pas avoir la même façon de communiquer ou de pas trouver la façon de communiquer d'un groupe confortable. Je pense notamment à une organisation à qui on a parlé, pour qui le conflit était normal, attendu, et même, enfin, de toute façon, il y allait avoir des conflits. Leur mode de fonctionnement était plutôt, si on n'est pas d'accord, il y aura un conflit, on réglera le conflit. Et je vois d'autres gens à qui on a parlé, qui sont dans une entreprise qui est aussi vers l'horizontalité, qui fait aussi l'horizontalité, mais ça leur irait pas du tout de fonctionner comme ça avec autant de conflits.
Alors, je me permets juste de poser une question. Est-ce qu'ils t'ont précisé ce que ces personnes entendaient par conflit, en fait? Est-ce que c'est une discussion un petit peu chaude ou est-ce que c'est vraiment avec des gens qui coupent la parole, etc.? Enfin, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot conflit, en fait?
L'exemple qui était donné...
Sans forcément dire qui c'est, mais en tout cas...
L'exemple qui était donné, c'était simplement le fait de... si tu faisais quelque chose pour l'entreprise, tu prenais une décision, qu'elle soit technique ou non... Et que quelqu'un n'était pas d'accord, il pouvait passer derrière et le défaire.
Ah ok, d'accord.
Point barre. D'accord. Et que si derrière ça...
Moi ça m'irait pas par exemple.
Mais alors je pensais conflit plutôt discussionnel en fait.
Qu'ensuite entre les deux, si ça causait un conflit personnel, on va dire, une discussion, c'était normal. Et que ça faisait partie de la vie normale de l'organisation.
D'accord.
Il y a d'autres gens qu'on a rencontrés qui seraient absolument malheureux dans ce genre d'organisation, alors que fondamentalement, ce sont des organisations avec énormément de motifs horizontaux des deux côtés. Donc c'est pas parce que c'est horizontal que tu vas être bien dedans, et tu peux mieux te sentir dans quelque chose de vertical, comme disait Marie-Odile, reposant, pas de responsabilité. Il y a des gens qui nous ont parlé d'anxiété, de savoir, de tout savoir sur la santé de l'entreprise.
Donc, y compris la santé financière.
Voilà. En fait,
parce que dans certaines structures que vous avez étudiées, les personnes salariées ont accès à tout, y compris aux factures, etc., à la compta, etc.
On connaît même une structure qui publie ça sur Internet.
D'accord. Ok.
C'est-à-dire la totalité de sa compta est accessible.
Oui, ok. Je vois à peu près. Enfin, j'ai une idée de qui c'est, mais effectivement, il y en a qui vont juste ces personnes-là qui vont jusque-là, effectivement. Et donc ça génère la souffrance de.
Il y en a qui nous ont dit il y avait de l'anxiété. De l'anxiété de tout savoir, y compris la santé financière, quand c'était un peu bancal, quand c'était un peu quand c'était pas très stable, quoi.
Au final, moi, je dirais que il y a plusieurs aspects. Tu sais, tu disais. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, Valentine disait c'est ok. Il y a le côté horizontal, vertical, il y a la personne et il y a le contexte. Et c'est la combinaison de ces trois-là qui fait que ça va ou ça va pas. Donc tu peux avoir une même personne qui, dans des contextes différents, alors le contexte ça peut être les autres personnes avec lesquelles on travaille, le but de l'organisation, est-ce que c'est salarié, est-ce que c'est bénévole, ça peut être quand t'as 20 ans, quand t'en as 30 ou quand t'en as 40 ou quand t'en as 50, ça, donc la personne, le contexte dit si ça se passe bien avec une organisation horizontale ou une organisation verticale. Et éventuellement la même personne, ça va bien lui convenir à 30 ans d'être dans quelque chose d'horizontal. Et ça lui conviendra plus à 50, par exemple.
D'accord, ok. Là, vous avez parlé donc dans les motifs de fluidité des mandats, de transparence, de cohérence entre les objectifs à afficher et les actions. Est-ce que vous avez noté ou est-ce que vous avez eu des retours, par exemple, sur ces parties-là de personnes dans une structure qui vous disent bon ouais il y a les objectifs affichés d'horizontalité, etc. Mais dans les faits c'est pas toujours réellement mis en œuvre. Ou est-ce que globalement il y a une cohérence dans les structures que vous avez étudiées ?
Alors, on en a vu des structures qui disaient on est horizontal et qui avaient des motifs qui étaient plus des motifs verticaux.
C'est un exemple. Quel motif de verticalité cette structure avait, par exemple ?
Valentine et moi, on a principalement travaillé dans des structures de petite taille, disons de moins de 20 personnes, ce qui ne nous empêche pas d'avoir côtoyé des entreprises plus grandes. Mmh. Donc typiquement, quand tu dis vertical, tu penses à hiérarchie. Donc tu pourrais penser que la hiérarchie, c'est un facteur de verticalité. Après, quand tu dépasses une certaine taille, avoir quelque chose de très plat, ça peut devenir plus compliqué. Donc, je sais pas, admettons, t'es 250. Si tu te retrouves dirigeant d'une organisation de 250 personnes, tu peux pas parler avec les 250 personnes en direct. Tu comptes, ne serait-ce que tu prends 10 minutes pour parler à chaque personne une fois par mois, tu multiplies par 250, tu fais déjà des semaines de 50 heures, je pense. Donc, t'es forcé de mettre des relais d'une manière ou d'une autre. Et du coup, d'introduire une forme de hiérarchie et de verticalité. Alors, comment tu fais quand tu dépasses une certaine taille et que tu veux être horizontal? Voilà. Ça peut être un exemple de contradiction.
Enfin, de ce qui apparaît comme contradiction. Cette question a été étudiée dans d'autres contextes, parce que je suppose qu'il y a des organisations assez grosses qui mettent en œuvre l'horizontalité. Mais bon, je suis encore moins spécialiste que vous de la question. Donc,
C'est aussi pour ça qu'on est revenu de notre jugement de valeur en se disant si on est une entreprise de 2000 personnes et qu'on veut être horizontal, on va avoir des motifs d'horizontalité. On va choisir des choses qu'on va faire pour améliorer notre horizontalité. Mais on ne pourra peut-être pas faire pareil qu'une entreprise de 4 ou de 12 personnes.
Oui, ça c'est sûr. Oui.
Et donc, l'important, c'est d'être transparent sur là où on veut aller et les compromis qu'on fait. De toute façon, les compromis, ils sont là, ils sont nécessaires. Plusieurs organisations nous ont dit, nous, on veut être transparent, on veut être absolument transparent. Par contre, tout ce qui est RH, tout ce qui est ressources humaines, on ne peut pas.
Là, ne serait-ce que d'un point de vue légal.
Légalement, on peut pas.
Quand tu parles de ressources humaines, légalement, on peut pas. C'est quoi? C'est les fiches de paye, c'est les salaires, c'est les contrats de travail.
T'as un contrat de travail.
Ouais.
Donc il y a quelqu'un qui vient te voir en disant, je veux rompre mon contrat de travail. Je suis pas sûr que tu puisses annoncer à tous les membres de l'organisation dans la minute sur la messagerie instantanée ah, un tel m'a demandé de rompre le contrat de travail. Il peut dire mais attendez, moi j'en ai parlé que aux responsables du contrat.
Légalement, il y a des cadres. Ah, oui. Et certaines choses qui sont enfin, s'il y a un problème, on peut penser à d'autres problèmes qui nécessitent l'intervention de d'une unité ressources humaines, quelle qu'elle soit, eh ben, légalement, certains de ces problèmes doivent rester confidentiels. Donc, confidentiel et transparence totale, c'est pas possible. Par contre, il y a des organisations qui nous ont parlé de translucidité, à savoir, bah, tu sais qu'il se passe des choses, tu sais qui a accès à quelle information. Donc, tout n'est pas transparent, mais par contre, il n'y a rien de caché.
Ouais, ou en tout cas, c'est explicite.
C'est explicite que tu n'as pas le droit d'avoir cette information.
Si tu penses qu'il y a un problème lié au RH, par exemple, tu sais quelles sont les personnes qui ont accès à l'information, qui participent à la prise de décision.
Et donc, tu peux aller les voir, éventuellement, si tu veux t'impliquer ou avoir des informations dans la limite, effectivement, de la légalité et puis de la confidentialité personnelle, c'est ça.
Au moins, c'est quand le fonctionnement est clair, ça supprime les occasions de dire... De créer des théories du complot, quoi.
D'accord. Alors, avant la pause musicale, dernière question, on va rester sur le contrat de travail, parce que c'était dans la liste des autres thèmes, mais c'est pas grave. Le contrat de travail, la question, c'était quelle place pour le contrat de travail, qui est un outil de subordination, dans une structure qui se voudrait horizontale? Est-ce que c'est un outil utile ou un bâton dans les roues?
Comment faire...
Ni l'un ni l'autre.
Comment faire sans contrat de travail? C'est la grande question. On avait parlé la dernière fois de notre interrogation. Est-ce que le format compte? Est-ce que le format est important dans l'horizontalité? Est-ce que être scope, être d'autres formats un peu exotiques?
Sachant que je vais juste rappeler que le contrat de travail n'est pas forcément obligatoire. Beaucoup de personnes pensent que c'est obligatoire, mais dans certaines, notamment CDI par exemple, dans le privé, c'est pas obligatoire. Mais je te laisse poursuivre.
Ça demande de sortir vraiment du cadre. C'est-à-dire que le contrat de travail, effectivement, dit il y a une relation de subordination qu'il n'est pas là quand on parle d'indépendants qui travaillent ensemble, par exemple. Et on a des organisations qui ont fait ce choix pour éviter d'avoir une subordination de fait et une gérance de fait. Enfin, voilà, quelqu'un qui décide parce que légalement, il faut quelqu'un qui décide, qui ont décidé d'être un ensemble d'indépendants qui se regroupent pour atteindre les objectifs de l'organisation. Donc, ça demande de se poser des questions, ça demande de repenser le cadre. Et il y a des gens qui vont pas avoir l'habitude, hein, que ça peut perturber. On sort vraiment de la zone de confort. On dit, tu viens bosser ici, mais t'as pas de contrat de travail.
Oui, parce qu'en plus, je complète la question avant la pause. Dans le contrat de travail, au-delà de l'aspect hiérarchique, subordination, il y a le périmètre de... pas des responsabilités, mais des actions de la personne, en fait.
Oui, souvent, c'est...
Qui est déjà précisé et qui est une liste dont normalement on ne sort pas, en fait.
Souvent, ça peut être associé à une fiche de poste qui détermine exactement ce que tu es censé faire.
Voilà.
Alors, je suis pas expert de droit du travail, hein, loin de là, et... Donc, tu disais, c'est pas obligatoire. Valentine, comme elle le disait, on a vu des organisations qui ont fait pas mal d'efforts pour explorer cet espace de liberté et voir comment est-ce qu'on pouvait, en restant conforme au droit, changer un certain nombre de choses. Le résumé là-dessus, ce serait, c'est pas gratuit, quoi. Si tu fais au plus simple, de mon point de vue, ça va dans le sens de la verticalité plutôt que dans le sens de l'horizontalité.
C'est beaucoup d'efforts pour aller vers autre chose.
D'accord. Alors, on va faire une pause musicale. Alors, je vais préciser... Ah non, tu... Je la lançais pas immédiatement, la pause musicale, parce que je voulais préciser quand même, Élise, que fin 2023, la radio avait lancé un appel à financement participatif pour aider la radio à boucler son budget. On avait reçu pas mal de soutien, dont d'ailleurs aussi Valentine Augier-Galland. Merci à elle. Et une des personnes, Clément Houdot, qui est un libriste, mais qui est aussi artiste sous le nom de Captain, hein, K-P-T-N, avait été donc une des personnes à contribuer. Et parmi les contributions, il y avait le choix d'une pause musicale. Et comme il le dit lui-même, Captain fait des chansons françaises, mais amusantes. Je précise que l'album de l'artiste Captain s'appelle Flamme. Le message qu'il souhaite associer à sa musique, c'est Captain, il est libre, un max. Donc voilà, toutes les références hein, pour les... et donc nous allons écouter, il a proposé un titre, nous allons écouter Irrésistant, donc par Captain. On se retrouve dans 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune. Et nos silences. Et pourquoi dire tout ce qu'on ne comprend, tous ces mystères, les mots de nos romans, nos belles paroles, nos idées folles. On laisse nos
écouter Irrésistant par Captain, disponible sous licence Creative Commons CC BY.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Alors, j'ai corrigé, la licence, c'est pas du tout CC BY, hein, c'est CC BY SA, c'est-à-dire Creative Commons partage dans les mêmes conditions, donc attribuons bien la licence. Et si vous voulez découvrir Clément Oudot, vous pouvez aller aux rencontres professionnelles du logiciel libre qui ont lieu à Lyon le 10 juin 2024. Il sera là à titre professionnel, vous pourrez lui faire un petit coucou, mais j'en reparlerai en fin d'émission. Donc, on va reprendre notre échange sur les modèles d'organisation ouverts, donc avec Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauvin. Et je vais relayer une question qu'on a reçue sur le salon web. Alors, je vous rappelle, vous pouvez intervenir vous aussi sur le salon web. Vous allez sur causecommune.fm, bouton de chat, salon Libre à vous, ou sur le site de libreavoue.org directement. Donc la question est, le modèle d'organisation peut-il être fondamentalement ouvert à toutes les personnes salariées si le capital n'est pas contrôlé par l'ensemble des salariés? Qui veut se lancer dans la réponse? Valentine.
Alors, au début, notre question était, est-ce que c'est possible si on n'est pas en coopérative, par exemple? Et la question a évolué, parce que maintenant, je pense que l'un des axes possibles, qui n'est pas nécessaire, mais qui est utile pour aller vers l'horizontalité, c'est celui de l'implication financière. Ce qui est très différent d'être en coopérative, parce que par exemple, moi, pour rentrer dans ma coopérative et devenir associée, il y a tout un processus, mais financièrement, ça coûte une dizaine d'euros. L'implication financière est pas énorme. L'implication morale, sociale, c'est autre chose. Dans d'autres organisations qu'on a vues, l'implication financière, elle est bien plus importante. Elle est d'environ un an de salaire. Et avec tout un système mis en place pour que ça soit inclusif, c'est-à-dire même les gens qui n'ont pas un an de salaire au départ puissent le faire.
C'est-à-dire les nouvelles personnes entrantes.
Oui.
D'accord.
Mais cependant, l'implication n'est plus du tout la même. Donc, je pense que si on a une entreprise qui est vraiment horizontale, avec beaucoup de motifs, avec beaucoup d'efforts pour justement empêcher des motifs verticaux d'apparaître naturellement, on peut avoir un capital qui est concentré. Mais c'est quand même un motif qui va aider si on a une implication financière de tout le monde. Implication financière suffisante en fait qui va participer à responsabiliser les gens. Tu voudrais ajouter quelque chose,
Nicolas?
Oui, l'exemple que vient de citer Valentine, je le trouve intéressant parce que si tu le formules un tout petit peu différemment, ça veut dire que dans cette entreprise, les gens empruntent pour venir travailler. Les gens, pour venir travailler dans l'entreprise, font un emprunt sur 5 ans, en gros. Qui sera remboursé plus ou moins automatiquement grâce à leur travail.
Mais... Ce que tu dis, c'est en théorie ou c'est par rapport à ce que vous avez
Non, c'est ce qu'on a vu.
D'accord. Ok.
Alors,
c'est pas courant qu'une personne pour travailler doit se faire un emprunt.
C'est pour ça que je veux le souligner. Alors d'accord. Après, si t'as des économies qui correspondent à, en gros, 7 ou 8 mois de salaire, dans ce cas-là, passer ta période d'essai, tu peux dire bon ben voilà, je vous donne 8 mois de salaire et puis maintenant je suis à égalité avec tout le monde. Mais la plupart des gens, pour pouvoir être à égalité avec tout le monde, ce qui est indispensable dans cette structure-là, bah, ils se retrouvent à faire un emprunt. Alors ils ont une espèce de partenariat avec un banquier avec lequel ils s'entendent bien et qui accepte toujours de signer les prêts. Mais bon, c'est pas le plus courant.
Et en même temps, ça inverse complètement la logique. Ça inverse complètement la logique des entreprises. On parlait tout à l'heure du contrat de travail, mais on a beaucoup aujourd'hui la logique d'une entreprise qui est dans le capital appartient à une ou deux personnes ou trois personnes maximum, ou alors c'est énorme et là on ne sait même plus. Et le fait de rendre ça visible, encore une fois, ben, on est toujours un peu dans ce motif de transparence, hein, que le fait de rendre ça visible, ça permet de mettre les choses à plat et potentiellement de contourner ou en tout cas changer des façons de faire.
Là, ça me fait penser à un autre exemple. Une personne qui a créé une entreprise. L'entreprise a commencé à bien fonctionner. On lui a proposé de la racheter. Pour différentes raisons, ça l'a choqué. Elle a dit... D'abord, elle a dit non à la proposition de rachat. Et puis en plus, elle a dit « Je veux pas me retrouver dans une situation où je pourrais pas dire non. » Donc, je ne veux plus que l'entreprise m'appartienne, il faut qu'on change de statut et qu'elle appartienne à tout le monde. Donc, la personne a mis en œuvre ce changement-là, et une bonne part de ceux qui étaient salariés dans la structure ont quitté la structure parce que ça leur convenait plus. Mmh. Alors après, c'est reparti, et alors je ne sais plus si c'est une bonne part ou pas, mais
des personnes ont quitté la structure parce que ça leur convenait pas,
et puis après, c'est reparti, et maintenant, ça fonctionne à nouveau, mais c'est pour... revenir là aussi, insister sur à quel point c'est la personne, le contexte et l'organisation qui doivent être cohérentes pour que ça fonctionne et que les gens se sentent bien.
Et pour citer cette personne, elle disait qu'on lui avait beaucoup dit qu'elle elle avait sabordé un truc rentable. Et c'est très intéressant parce que d'aller vers de l'horizontal, c'était considéré comme quelque chose d'un peu débile quand même, et quelque chose de pas vraiment pertinent, pas vraiment la décision d'un businessman, quoi.
D'accord. C'est ouais. Ça me fait penser. Est-ce que finalement l'horizontalité c'est un gage de réussite, parce que finalement j'ai l'impression que par rapport à ce que tu viens de dire, les gens se sont inquiétés en se disant si on change de modèle, ça va pas aller, quoi.
C'est quoi la mesure de succès d'une entreprise en vrai ?
Voilà, c'est pour ça que je pose une question ouverte en ayant conscience que gage de réussite. Alors je mets dans l'ensemble le bien-être des personnes qui travaillent, la satisfaction des clients, etc. Enfin voilà.
On en reparlait avec Valentine ce matin. Tu prends une communauté plus grande comme la France. Est-ce que tu mesures la réussite de la France à son PIB, ou est-ce que tu fais comme le Bhoutan et tu mesures son bonheur individuel brut?
Et ça, c'est super intéressant parce que pourquoi est-ce que tu as créé l'entreprise? Est-ce que tu as créé l'entreprise pour donner de quoi vivre à ses membres et c'est tout et ça suffit? Est-ce que tu as créé l'entreprise pour pérenniser quelque chose, pour créer quelque chose qui dure 100, 120 ans? Est-ce que c'est pour être le premier sur le marché? Est-ce que ton objectif c'est la croissance? Est-ce que ton objectif c'est la résilience en cas de coup dur, en cas de Covid, que ça survive? Est-ce que c'est le bien-être? Est-ce que c'est le fait que les gens restent? Est-ce que c'est ou non un critère? Parce que si tout le monde part, est-ce que c'est bien ou est-ce que finalement c'est pas bien?
D'autant plus que dans l'informatique, souvent un critère de réussite dans certaines entreprises, malheureusement, c'est le turnover. C'est-à-dire que le fait que les gens ils tournent. Pour l'entreprise en tout cas, je vais pas citer de nom. Oui. Hein. Mais c'est malheureusement...
Je crois que je sais à qui tu
C'est un des critères, pas que dans le libre d'ailleurs. Voilà, c'est un des critères.
Est-ce que un critère de succès, c'est d'être une entreprise horizontale? Et justement, est-ce que finalement c'est un critère de succès ou pas? Je pense que la différence de fonctionnement, que ça soit horizontal ou vertical, c'est rarement la raison de l'échec. De la même façon que quand on a une relation amoureuse atypique, c'est pas forcément le fait que ce soit atypique qui fait que ça va foirer. Des fois, ça foire parce que ça foire, quoi.
Ouais, parce que c'est des relations humaines, quoi.
Voilà. Et là, des organisations, c'est des humains ensemble. Donc, des fois, ça foire, des fois, ça foire pas. Et l'important, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la cohérence entre l'objectif, entre le besoin de la personne, les aspirations de la personne, les aspirations de l'organisation et les actes. C'est si on dit on fait confiance et on fait confiance totalement aux gens. Dans ce cas, mettez la carte bleue en libre accès. La carte bleue d'entreprise. Là, vous mettez en cohérence les actes et les aspirations.
D'accord. Le temps passe vite. Mm-hmm. On a encore des sujets que vous voulez absolument aborder avec raison. Mais avant de changer un tout petit peu de thème, il y avait un point dont on avait discuté, c'est la spécialisation polyvalence. Et je crois que c'est Nicolas qui avait dit « Moins on a de gens prêts à faire du développement de la compta, moins c'est facile d'avoir de l'horizontalité. » Alors je ne sais pas si c'est ce que tu as dit, en tout cas, ou si ça correspond à ce que tu penses. Mais c'est quoi cette notion de spécialisation versus polyvalence ?
Mais on a ouvert la discussion en parlant de mandat et de répartition des responsabilités. Il y a un certain nombre de choses, c'est un peu les thèmes qu'on retrouve aussi sur la page du projet, il y a un certain nombre de choses qui sont nécessaires au fonctionnement d'une organisation. Il y a du recrutement, Enfin, il y a tout ce qui est la gestion de ses membres, donc les arrivées, les départs, que ça se passe bien quand ils travaillent là. Il y a tout ce qui est financier, c'est-à-dire s'assurer que les ressources financières nécessaires à l'organisation sont là. Alors, dans une association, ça peut être un peu différent de, dans une entreprise commerciale, mais il y a toujours des dépenses. Les associations, il y a rapidement des permanents quand ça grandit. Bon, une entreprise, tu as des salariés, tu dois trouver des nouveaux clients ou entretenir les relations avec les clients. T'as aussi toujours une partie technique. Alors là, comme on fait de l'informatique, il faut que les ordinateurs fonctionnent, il faut que les logiciels soient développés, il faut que les bugs soient corrigés, etc. Si tu veux être horizontal, et si horizontal, ça veut dire... Si une des manières d'être horizontal, c'est de faire tourner les responsabilités d'une façon ou d'une autre, bah, si t'as des gens qui rentrent dans l'organisation en disant « Moi, je m'occuperai que des serveurs et rien d'autre », c'est pas facile de faire tourner, quoi.
C'est peut-être possible, mais c'est plus compliqué.
C'est pas facile. C'est plus dur.
Ça devrait demander beaucoup plus d'efforts. Et des gens qui sont en capacité, c'est une chose, parce que ça s'apprend. On va parler de la formation plus tard, peut-être.
Oui.
Mais des gens qui ont l'envie de faire à la fois rebooter le serveur, parce qu'il faut bien que quelqu'un reboote le serveur, et faire la compta, et rappeler la femme de ménage parce qu'elle n'est pas passée, on ne sait pas pourquoi, etc. Toutes ces petites choses qui font que ça tourne. Ben, si on est là et qu'on dit « Non mais moi, ça ne m'intéresse pas, je veux juste coder », ça ne marchera pas. C'est vraiment... Donc, cette côté polyvalence, c'est un peu nécessaire pour pouvoir justement diluer et ne pas avoir une personne qui fait tout parce que c'est la seule qui sait faire.
Mais si on fait le parallèle avec des projets libres, ce qu'on essaie régulièrement de faire dans le projet, un projet libre où tu n'as que du code, s'il n'y a pas de documentation, s'il n'y a pas de site web, s'il n'y a jamais de présence sur les événements, s'il n'y a pas de présence sur un forum en ligne, si quand des gens posent des questions ou des gens rajoutent des tickets, personne ne leur répond...
Le code, il a intérêt à être vraiment, vraiment, vraiment bon, quoi.
Faut vraiment que le code soit bon, quoi.
Oui, alors, ce que vous venez de dire me fait enchaîner sur le thème d'après, hein, parce que je vois qu'il reste un petit quart d'heure, qui est la capacité de... dans les exemples que tu citais, finalement, la personne qui code veut juste coder sans se préoccuper de ce qui est autour et ce qui lui permet, en fait, de coder en toute tranquillité, c'est-à-dire avec peut-être du chauffage, un bureau, des tickets restaurants, un bureau qui est nettoyé parce qu'une personne est faite pour ça et qu'on rappelle, voilà, etc. C'est le soin quelque part, le soin des personnes, de l'organisation, ce qu'on appelle aujourd'hui le care. Et je crois que c'est notamment Valentine qui voulait en parler. Donc dans cette organisation, dans ces organisations horizontales, comment se gère ce soin, peut-être en distinguant justement le soin des personnes, le soin de l'organisation, des serveurs aussi. Tout à l'heure tu parlais de rebooter un serveur, ça fait partie quelque part du soin du système d'information. Donc au niveau de la production, comment ça se passe justement dans ces organisations-là, sachant que dans la fiche de poste, normalement, on est dédié à le dev, la compta ou autre chose. Hein. Donc, comment ça se passe ?
Justement, dans les fiches de poste classiques, souvent, il y a beaucoup d'activités de care qui n'y apparaissent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont
absentes. C'est totalement absent, oui.
Voilà, on a des choses sur la technique, on a des choses, effectivement, sur peut-être la compta, etc. Mais il y a beaucoup d'autres choses pour prendre soin d'une organisation et prendre soin de ses membres. Il y a beaucoup de petites choses à faire qui passent souvent à l'as. Il y a des organisations qui mettent l'effort sur les rendre visibles. Il y a une organisation qui nous parlait des petites gouttes, d'un tableau des petites gouttes. C'était les petites choses qui étaient faites, petites gouttes d'eau comme des toutes petites choses qui sont faites et qui doivent être faites au quotidien ou régulièrement pour justement prendre soin de son organisation et de ses membres. Et il y a beaucoup de choses qui, parce que traditionnellement, elles sont pas dans les fiches de poste, c'est pas mon travail, c'est invisibilisé. C'est souvent fait un peu par les mêmes personnes quand même. Il y a une division.
Est-ce que je peux me permettre, souvent les mêmes personnes d'un genre particulier?
Ouais, c'est assez genré.
C'est assez genré quand même. Hein. C'est la petite fée quoi, qui fait que Alors Nicolas qui fait, je peux pas le mimer parce qu'on est à la radio, mais qui est pas fort. Mais c'est oui.
Ouais, Nicolas sur le quai de la gare, qui avec qui on parlait de ces gens qui ont des belles carrières et parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et
souvent parce qu'il y a une femme derrière.
Voilà, qui sont en capacité de faire des journées de 10 heures parce que derrière il y a quelqu'un à la maison.
Exactement.
Et dans une entreprise aussi, il y en a qui ont la capacité de faire des journées de 10 heures à faire que du code. Ou d'ailleurs faire que de la compta, parce qu'il y a quelqu'un où il y a des gens qui font ce travail autour. Et je pense que pour être horizontal, il faut une certaine proportion de gens qui sont motivés, qui sont prêts, qui sont motivés à faire cet effort-là, qui est un vrai effort, qui c'est une vraie charge mentale aussi, parce qu'il faut y penser, il faut s'apercevoir que c'est à faire. Et ça peut aller de s'apercevoir qu'il y a des gens qui ne parlent pas, qui parlent beaucoup moins que les autres en réunion.
Dans les réunions, ouais.
Voilà. Un outil qui avait été mis en place dans une organisation, c'était ils avaient mis en place quelque chose sur toutes les visios qui affichait automatiquement les temps de parole des gens. Et donc c'est, y a rien de coercitif, c'est juste informatif. Attention, là, il y a 3 personnes qui ont parlé et les autres qui ont pratiquement rien dit. Peut-être qu'on veut faire quelque chose par rapport à ça. Donc, mais il faut le mettre, cet effort, parce que sinon on va glisser vers la verticalité, parce que on a une société où on est un peu tous formés à ça.
Alors justement, on va pas tout de suite parler de la formation, ouais. On va en parler parce que ça avance, mais c'est quand même une question à la formation. Et que là vous parliez de faire tourner les responsabilités, notamment de la polyvalence technique, mais là quelque part dans le soin, il y a tourner la responsabilité qui n'est pas du tout technique. Qui est une autre compétence.
Et qui pourtant demande des compétences.
Qui demande des compétences. Est-ce que par exemple, donc dans les organisations que vous avez pu étudier ou interviewer, en tout cas, est-ce qu'il y a des formations dédiées à cet aspect-là? Parce qu'il y a souvent des formations évidemment techniques sur le développement, mais est-ce qu'il y a des formations sur cet aspect humain?
J'aurais même dire, plus les entreprises étaient, plus les organisations étaient horizontales, plus il y avait des actions à ce niveau-là. Mais c'est des motifs qu'on va voir aussi sur des très grosses entreprises qui veulent aller vers l'horizontalité. C'est des actions d'accompagnement, que ce soit des séminaires, que ce soit des formations externes, que ce soit du coaching ou du mentoring en interne. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus?
Tu veux revenir sur le fait quand tu n'étais pas d'accord tout à l'heure, quand tu faisais je ne sais quoi avec la tête? Comme tu veux, tu parles de ce que tu veux.
Les deux points que je peux rajouter sur ce qui a été dit juste avant, c'est parfois il y a aussi des gens qui ont des journées de 8 heures dans certaines organisations parce que toutes les petites gouttes dont parlait Valentine, c'est fait par les mêmes qui du coup ont des journées de 12 heures.
Ou de plus.
Ou de plus.
Des week-ends.
Et c'est pas toujours. Pas toujours. C'est pas forcément parce que ceux qui font des journées de 8 heures sont de mauvaise foi. Ça peut tout simplement être parce que ceux qui font des journées de 8 heures ne se rendent pas compte de tous les autres trucs qui sont faits pour que ça continue à fonctionner.
C'est-à-dire comme 99,99% des hommes. Moi inclus, hein. Je...
et pour que pour avoir une chance d'équilibrer ça, là aussi, il faut expliciter les choses en disant exposer quoi, en disant voilà, il y a ça qui a été fait, ça qui a été fait, et si tu dresses pas cette liste et si tu la rends pas visible par tout le monde. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui croient que les bureaux se nettoient tout seuls. Ouais. Je sais pas, à chaque fois que je viens,
en fait, je relaie la remarque de Marie-Odile. Hein. Enfin, c'est comme à la maison, quoi. Qui fait quoi? Donc lister qui fait quoi. Mm-hmm. Et comme à la maison, dans les couples hétéros, les hommes, par magie, pensent que la table se nettoie, le repassage est fait, etc. Quoi.
Mais c'est par magie, mais parce qu'il y a une socialisation et une éducation.
Tout à fait. Oui.
Et la socialisation et l'éducation... des travailleurs est également biaisé en faveur d'être employé et pas en faveur de prendre la responsabilité de son organisation. On n'est pas l'éducation nationale, pour ne pas la citer, hein, mais la formation initiale en France est une formation pour devenir employé. Pour devenir employé dans un environnement extrêmement vertical et pas pour prendre des responsabilités. On ne nous forme pas à devenir chef d'entreprise, qu'est-ce que soit le truc, ni à être indépendant, ni...
Même pas chef d'entreprise, parce que si tu dis chef d'entreprise, tu t'emmènes plein de trucs avec toi, juste responsable. Quand tu regardes les tout-petits, ce qu'on leur demande, à l'âge où ils ont toute l'énergie du monde, on leur demande de se taire, de rester assis et de faire ce qu'on leur dit, quoi. Alors que... Il y a bien un moment où il faudrait leur permettre de s'exprimer, c'est à ce moment-là. Donc, dès tout petit, on apprend aux gens à obéir. Plus tard, on leur dit ce qui est important, c'est que vous ayez un métier. Alors, entre être formé à un métier et faire des études, moi, je vois une différence. Je fais partie des gens qui discutent la grosse tendance à l'apprentissage aujourd'hui, parce que autant la mise en pratique, etc., je trouve ça bien, autant laisser croire aux gens que leur seul rôle, c'est de correspondre à l'entreprise qui les forme, je trouve ça discutable. Donc, ce cadre général, là aussi, pour moi, est en faveur des structures verticales. Et si tu veux organiser un groupe de personnes de manière horizontale, il y a presque des choses à désapprendre, en fait. Suivant les gens, c'est plus ou moins difficile.
Soit c'est des gens qui auront déjà été hors cadre, hein, pour lequel ça collait pas déjà, et qui cherchent quelque chose d'autre. Soit, effectivement, il faut désapprendre ce qui a été appris. Et moi, je trouve ça assez révélateur que si on veut créer une structure en France, si on veut créer une entreprise, eh ben, on va nous orienter vers un MBA, master de business, oui. Quelque chose comme ça. C'est une formation qui clairement forme les gens à être dominants.
Oui, c'est ce que tu disais dans la préparation. C'est la question que j'allais te poser. Vous avez dit donc là. En plus, vous voyez, nos invités sont très forts, c'est qu'ils sont arrivés au sujet de formation sans qu'on le lance. Vous avez dit donc en gros que la formation ne nous prépare pas à l'horizontalité, mais qu'en plus dans la préparation, je crois que c'est donc toi qui me l'as dit, Valentine, elle renforce les dominants.
Ben c'est soit on te forme à être employé, c'est le cas de la plupart des gens. Soit tu vas directement dans une formation qui va te former à être dominant. Il y a très peu de formations disponibles, sauf par exemple sur les URSCOP, les unions régionales des SCOP, donc des coopératives, qui vont apporter des formations spécifiques là-dessus. Mais ces formations, on les découvre par hasard. Il faut déjà connaître ce que c'est qu'une SCOP. Moi, j'en ai jamais entendu parler à l'école. Et pourtant, c'est vieux.
Alors, il y a d'autres formations que celle des URSCOP, mais pour moi, l'idée principale là-dedans, c'est si tu veux faire quelque chose d'horizontal, t'as une pente à remonter, quoi. C'est vers le haut.
Et elle est grosse, c'est quoi le pourcentage de la pente? C'est 10%, 20%?
On a beaucoup de gens qui nous ont parlé, de gens qui étaient moteurs de l'horizontalité dans leur entreprise et qui ont parlé de fatigue, d'épuisement, voire de risque de burn-out, de lassitude. Et ils y croient quand même. Et il y a cet effort, il est réel, il faut le poser, quoi. Et on vit dans un monde qui n'est pas horizontal, qui n'est pas favorable à l'horizontalité, et donc on remonte la pente.
Et c'est vrai qu'on est dans un monde qui glorifie l'individualisme.
Ou le chef, le héros.
Ou le chef, le héros, ou le, comme dirait Mario Dill sur le salon, le grand homme, entre guillemets.
L'homme providentiel qui va nous sauver tous.
On ne va pas rentrer sur ce sujet-là, mais oui.
Toute ressemblance serait purement fortuite.
On n'est pas loin de la fin du sujet. Je vais vous laisser. Je vais vous faire la question finale comme ça. J'espère que vous l'avez préparée ou en tout cas vous allez l'improviser parce que vous avez un grand talent. Et alors ça, finale pour cette émission-là parce que on se donne rendez-vous évidemment pour la troisième émission. Donc la traditionnelle question finale d'un sujet long. Je sais même pas où je l'ai mise. Ah oui, si. En gros, est-ce que vous pouvez expliquer chacune et chacun en 2 minutes les éléments clés à retenir ou ce que vous avez envie de faire passer dans ces 2 dernières minutes chacun et chacune. On va commencer par Nicolas et finir par Valentine. Okay. Ou si vous voulez faire l'inverse, vous faites l'inverse. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai pour l'habitude de finir par, ouais, comme ça, mais vas-y.
C'est vous le chef, chef.
Chef, oui, chef.
Donc, moi, ce que j'espère en venant ici, en parler à la radio, c'est faire du logiciel libre, au sens, on a essayé des trucs, donc là, on a essayé de réunir des informations et d'y réfléchir, et maintenant, en venant à la radio, on essaie de les repartager, dans l'espoir que d'autres gens les trouveront utiles et feront leur propre cuisine avec. Donc, s'il y a des gens qui font leur cuisine avec et qui trouvent ça utile et qu'ils veulent nous en parler, ça nous fera très plaisir de les entendre. Donc, ils peuvent aller sur la page du projet pour voir ce qu'on a réussi à produire et nous envoyer un mail. Dans le même esprit, la suite du projet, ça pourrait être d'organiser un atelier pour réunir les entreprises avec lesquelles on a parlé et peut-être d'autres personnes intéressées. Donc là aussi, contactez-nous. D'ailleurs, merci. Suite à la précédente émission, on a deux chercheuses de l'Université Polytechnique des Hauts-de-France. Alors là, par contre, elles, c'est leur métier de travailler sur ces questions-là et d'écrire des articles, des publications, qui sont Véronique Sanguinetti et Isabelle Alphonse, qui nous ont contacté, avec qui on a discuté, et on va probablement poursuivre le projet à quatre. Donc voilà, c'est un début de communauté, on dirait. Les logiciels libres ont des communautés, ce projet a une communauté en croissance. Et puis, qu'est-ce qu'on produira ensuite? Je sais pas. Valentine et moi, on a toujours fait de l'agilité. Dans le domaine de l'agilité, il y a un manifeste agile. Je sais pas si on peut parvenir à écrire un manifeste de l'entreprise horizontale.
Pas seul, mais dans le cadre de l'atelier dont il parlait tout à l'heure.
C'est ça.
Pour rassembler des gens.
La communauté, on
parle. Écoute, merci Nicolas, je suis ravi de savoir que les interventions dans Libre à vous permettent de recruter des personnes sur les projets. Voilà, c'est très bien. Valentine, ta conclusion, ou en tout cas tes deux dernières minutes?
Alors, ce que j'aimerais que les gens retiennent, c'est oui, on peut créer une structure horizontale, une organisation horizontale. Ça marche pour certains critères de ça marche, à savoir si c'est votre objectif de fonctionner de façon horizontale, allez-y. Et dans le contexte que l'on a décrit, ça demande des efforts, c'est pas forcément facile. On vit dans un monde qui va pas forcément nous aider à être horizontal. C'est aussi OK de faire des petites bulles d'horizontalité à l'intérieur d'une entreprise qui ne l'est pas encore. C'est de faire de l'horizontalité à petits pas, de prendre un des outils, ceux qu'on a cités aujourd'hui ou ceux qu'on va rajouter sur notre site internet, juste un outil, et de voir potentiellement ça peut essaimer. C'est-à-dire plus d'inclusivité, plus de transparence, plus de fluidité, des petites choses. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que la bulle implosera sous la pression et la friction, et peut-être qu'Anna Semral donnera des idées à d'autres, et qu'on peut changer le monde.
Un octet à la fois, ou un pas à la fois. Donc l'horizontalité, c'est pour un terme qui plaît à ma collègue, c'est un cheminement vers l'horizontalité.
On n'est pas horizontal, mais on fait de l'horizontalité.
Exactement. Alors je renvoie les auditrices et auditeurs à la page web de l'émission pour retrouver les références et notamment le site de l'enquête. Donc c'est libreavoue.org/209 parce que nous sommes à la 209e émission. Donc merci à Valentine Augier-Galland et Nicolas Chauva pour cette deuxième émission. Donc on se redonne rendez-vous a priori, j'ai bien compris, d'ici à peu près un an pour la troisième édition. En tout cas, quand vous êtes prêts, vous êtes invités. Quand vous pensez que vous avez encore de nouvelles choses à dire, vous êtes les bienvenus. Merci à vous et belle fin d'après-midi.